La langue française est quand même bizarre.
Bonjour et bienvenue sur RAB, l'émission en balado-diffusion, le podcast de l'Alliance française de Brisbane. Je m'appelle Jérôme et je suis le directeur de l'Alliance française de Brisbane. Si vous recherchez RAB sur Google, vous trouverez de nombreuses références en anglais. Le Radio Advertising Bureau, Richard Austin Butler, un personnage dans Harry Potter, les forces de sécurité du Bangladesh, très contestées, ou encore les Retarded Animal Babies, une série de dessins animés diffusés sur Internet. Il vous faudra faire défiler une cinquantaine de pages avant de tomber sur « Les Bleus s'offrent du RAB », une référence au match de football supplémentaire que les Bleus, l'équipe de France, ont dû jouer à l'automne dernier pour se qualifier pour la Coupe du Monde. Le mot « RAB » est étrangement absent des dictionnaires. Son étymologie n'est pas documentée, et pourtant, pour la majorité des francophones, prendre du RAB est totalement transparent. L'expression est familière sans être grossière. À table, prendre du RAB, c'est se resservir. Par extension, prendre du RAB, c'est prolonger une action. Prendre du RAB de sommeil, par exemple. Ou comme les Bleus, faire durer le plaisir. Notons à cet égard que le titre de sport.fr est plutôt malheureux puisque le match supplémentaire que les Bleus durent jouer fut plus un parcours du combattant qu'une partie de plaisir. Désormais, RAB, c'est aussi Radio Alliance Brisbane, une émission consacrée d'une part aux Français et à l'actualité de la France et du monde francophone, et d'autre part, aux activités de l'Alliance française de Brisbane. RAB est destiné aux apprenants de français, pour qui nous proposerons un ensemble de documents de préparation à l'écoute, d'aide à la compréhension et d'approfondissement. Sur RAB, nous vous proposons donc de reprendre un petit peu de français. Sommaire de ce premier numéro, du cinéma avec une présentation du Festival du film de l'Alliance française et de sa soirée d'ouverture à Brisbane. Un certain regard aussi sur le film de Karine Albou, La Petite Jérusalem. Dans le prolongement du festival, nous parlerons aussi de musique avec la sortie en Australie de So Frenchy So Chic, une compilation du meilleur de la musique française. Nous vous proposerons une chronique sur la langue française, une rubrique qui deviendra un rendez-vous régulier, tout comme notre questionnaire de Proust qui conclura ce premier podcast.
Choisir un homme au hasard.
Est-ce que la place est libre ?
Le séduire. Le piégé. Anthony Zimmer, qui est-il?
Je ne suis pas Anthony Zimmer.
Existe-t-il? Sophie Marceau, Yvan Attal.
Vous allez vous faire tuer.
Anthony Zimmer, quand vous saurez, surtout ne dites rien.
C'est avec Anthony Zimmer, du réalisateur Jérôme Salles, que s'ouvrira l'édition 2006 du Festival du film de l'Alliance française. Le festival se déroulera du jeudi 23 au mercredi 29 mars prochain au cinéma Palace Saint-Trô. Cette nouvelle édition proposera plus de films et plus de séances encore qu'en 2005. De grands noms du cinéma français sont au rendez-vous, aussi bien des acteurs, avec Gérard Depardieu, Yvan Attal, Isabelle Carré, Daniel Auteuil ou encore Charlotte Rampling, que des réalisateurs avec Bertrand Blier, François Ozon, Patrick Lecomte, entre autres. De la comédie au drame, en passant par le documentaire, le Festival du film de l'Alliance française représente la sélection du meilleur du paysage cinématographique français contemporain. Cette année, le festival inclura plusieurs séances spéciales. Deux séances scolaires du film L'Avion, les lundis 27 et mardi 28 mars. Un rendez-vous le dimanche 26 mars, agrémenté de café et de pâtisseries offertes par notre sponsor French Twist. Et enfin, lors de la projection de L'Avion le mardi 27 et lors de la soirée de clôture le mercredi 29 au soir, avec la projection de mensonges et trahisons, deux billets d'avion pour Tahiti seront à gagner. Pour tout renseignement supplémentaire, vous pouvez consulter le site internet de l'Alliance française, afbrisbane.com. Le Festival du film français 2006, qui se déroulera du 23 au 29 mars, présente le premier film d'une jeune réalisatrice française, Karine Albou, intitulé La Petite Jérusalem, avec Elsa Zilberstein et Bruno Todeschini. Comment concilier les exigences de la Torah et l'éveil à la sensualité d'une jeune étudiante juive habitant Sarcelles en banlieue parisienne? Voilà le thème abordé par ce long métrage. La jeune réalisatrice avait déjà remporté le Grand Prix du Festival de Clermont-Ferrand en 1999 pour un court-métrage, Aïd el-Kibir, qui racontait l'émancipation d'une jeune Algérienne. Dans ce film, Laura, la jeune femme de 18 ans, entretient un rapport complexe avec la religion, devant composer avec le fait d'être juive et sa volonté de s'émanciper pour vivre pleinement sa féminité. Elle préfère se référer à la philosophie plutôt que de se plier à la loi de la Torah, la transgressant même en s'éprenant d'un Algérien, Jamel, et de ce fait, trouvant sa propre liberté. A l'inverse, sa sœur Mathilde symbolise la rigueur de la religion à la maison et a besoin d'évoluer dans la loi pour avancer, même si les clichés de la représentation de la religion orthodoxe juive sont évités. Ainsi, il est intéressant de noter dans ce long métrage les échanges de points de vue entre les deux sœurs sur les thèmes de la religion et de la liberté. Par ailleurs, ce film propose une autre vision de la banlieue que celle stéréotypée souvent diffusée par les médias. Il existe réellement un quartier surnommé la Petite Jérusalem à Sarcelles, avec une concentration de juifs venus d'Afrique du Nord. Karine Albou évoque le choix de ce cadre, tant sur le lieu que sur l'année, par le fait qu'il symbolise la peur diffuse pour les pratiquants, à cause des répercussions de la deuxième intifada et par le choc apporté par la présence de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour des élections présidentielles. Cependant, la jeune réalisatrice insiste sur le fait que cela n'est qu'un environnement et que le sujet principal du film est la relation entre ces deux sœurs juives.
Tranquille, flemmard, une petite place entre deux rues face au métro. Et c'est la tournée des terrasses et c'est le mois de l'apéro. Voilà l'été du farniente, il ne se passe plus grand chose. Mais de balades en café, y'a plus qu'à voir la ville en rose. On se pose à l'ombre d'un doute. Et voilà Paris au mois d'août. Voilà le Paris des pigeons, voilà la saison des pique-niques. Y'a plein de gamins qui font les cons et même des oiseaux à musique. Mais quand Paris te prend la main, y'a plus qu'à voir les choses en face. Se faire l'amour, ça donne faim. Refaire le monde, ça donne soif. C'est l'amour avec ou sans doute. L'amour de Paris au mois d'août. Il y a les matins croissants beurre, les petits cafés du tête-à-tête. Mais de petits déj en petit bonheur, c'est déjà l'heure de faire la fête. Et c'est reparti pour un tour et pour une nuit de soleil. On se retrouvera mon amour sur l'autoroute du sommeil. Les vacances au bord de la route, c'est vraiment Paris au mois d'août. Quand un jour de pluie apparaît entre deux nuits, il n'y a plus de saison. C'est le ciel qu'on pourrait toucher tellement il est bas de plafond. Alors on oublie la lumière et quand le cafard vous entraîne et qu'il n'y a vraiment plus rien à faire, on se promène au bord de la peine. Tombe la pluie goutte que goutte, c'est aussi Paris au mois d'août. Voilà le Paris de personne, les jours s'écoulent face au canal. Que rien ne bouge au téléphone, y'a plus qu'à ouvrir son journal. Et puis le soir sur son vélo, sous un ciel couleur de vin vieux. Quand on s'envole loin du métro, on a le macadam heureux. À l'ombre d'un cœur ou d'un doute, c'était bien l'amour au mois d'août. Moi, quand le bonheur fait banqueroute, je repense au Paris du mois d'août.
Pourquoi avez-vous commencé à apprendre le français ?
J'ai commencé à apprendre le français quand j'ai eu le poste de chef de l'équipe des ingénieurs dans un projet de faire construire une mine de nickel en Nouvelle-Calédonie. Il fallut qu'on fasse toutes les études en français et j'ai dû comprendre les règles techniques françaises. Plus tard, après j'ai quitté ce projet, j'ai poursuivi les courses avec l'Alliance française ici. Apprendre la langue, c'est comprendre le peuple, leur civilisation. L'histoire de France est riche et passionnante. En Australie, il n'y a rien pareil que 14 juillet. Et en plus, on ne peut s'amuser à lire le canard enchaîné qu'en français.
Nous venons d'écouter Paris au mois d'août de Agnès Bill, qui figure sur la compilation So Frenchy So Chic 2. Puis Rob Steele, étudiant en cours intermédiaire à l'Alliance française de Brisbane. Si vous écoutez ce podcast, inutile, j'imagine, de vous convaincre de la vitalité de la langue française. Tous les mois, dans cette rubrique, nous nous proposons de vous faire découvrir un mot, mais surtout un usage, ayant récemment fait son apparition dans la langue française. Sans attendre la consécration des dictionnaires, qui souvent ne viendra pas, nous vous présentons ces créations originales comme autant de reflets d'une société en constante évolution. Pour ce premier numéro, clin d'œil à l'exercice même auquel nous nous adonnons, le mot choisi est « dadsi ». D-A-D-V, muet, S-I, dadsi. Dadsi est un acronyme, ce qui n'en fait pas pour autant un sous-mot. Pensez plutôt, dadsi nous permet d'éviter d'avoir à dire droit d'auteur et droit voisin dans la société de l'information. Il s'agit en fait d'un projet de loi déposé en novembre 2003 par le ministre de la Culture d'alors, Jean-Jacques Ayagon. Le projet a été discuté devant l'Assemblée nationale en décembre dernier, en déchaînant les passions. Destiné à protéger les droits d'auteur à l'heure où les internautes s'échangent des fichiers par millions des quatre coins de la planète, certains ont vu derrière ce projet un protectionnisme excessif de l'industrie culturelle américaine, au cœur duquel se retrouvent des questions de sécurité informatique, aussi bien que de libre concurrence, de droit du public et d'atteinte à la vie privée. Nous ne rentrerons pas dans les détails du projet. Nous vous laissons vous faire votre propre opinion, pourquoi pas à partir des liens proposés en marge de ce podcast. Dadsi est revenu dans l'actualité au début du mois de janvier par un biais un peu particulier. En effet, Jacques Lang, ministre de la culture emblématique des années Mitterrand, a acheté Dadsi. Non pas le projet de loi, mais bien le mot Dadsi en tant que mot-clé sous Google. La pratique consiste à acheter un mot-clé pour que les requêtes portant sur ce mot dans Google listent en lien publicitaire une page désignée. Ce procédé a fait grand bruit en novembre dernier, lorsqu'au plus fort des émeutes qui secouaient alors la France, l'UMP, le parti politique majoritaire en France, avait alors acheté le mot « racaille ». Lorsqu'on entrait « racaille » dans Google, apparaissait un lien publicitaire pointant vers une pétition de soutien à Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur. Plus récemment, ce même UMP a relancé la polémique en achetant comme mot-clé les noms de certains de ses opposants et parmi eux Lionel Jospin et Jacques Lang, la boucle est bouclée. Preuve est faite, s'il en était encore besoin, que les partis politiques français reconnaissent désormais le réseau des réseaux comme un enjeu majeur de leur communication. Vous ne surferez plus sur une vague de liens impromptus, vous ne cliquerez plus au hasard. Le choix d'un simple mot sur Internet semble avoir des implications politiques et économiques. Je constate avec étonnement, alors que j'ai rédigé cette chronique sur le traitement de texte qu'utilise la majorité des francophones, que ce dernier me suggère avec insistance de mettre une majuscule à Internet. Franchement, après ce que je viens de dire, je ne suis pas convaincu. Ironie suprême, je ne peux pas croire à une coïncidence, ce même traitement de texte ne connaît pas Google, qu'il veut absolument remplacer par Goodyear. C'est gonflé, non ? Quel est votre principal trait de caractère ?
L'énergie.
Quelle est votre occupation préférée ?
Inviter mes amis à la maison, leur faire un bon dîner et discuter, jouer et boire toute la soirée.
Quel est votre principal défaut ?
Tout le monde dit que je parle trop vite.
Quelle est votre principale qualité ?
Être de bonne humeur.
Que détestez-vous par-dessus tout ?
L'hypocrisie.
Quel est le don de la nature que vous voudriez avoir ?
Savoir voler.
Quels sont vos héros dans la vie réelle ?
Mes parents.
Quel est votre héros de fiction préféré ?
James Bond.
Et à part vous, qui souhaiteriez-vous être ?
Calife à la place du calife.
Votre devise ?
Carpe diem.
Mais qui êtes-vous ?
Émilie Bout, je travaille à l'Alliance française.
Voilà, nous arrivons à la fin de ce premier épisode de RAB. N'oubliez pas, tous les scripts de l'émission sont en ligne sur le site de l'Alliance française, www.afbrisbane.com. On se retrouve le mois prochain.